Vous écoutez
RMC.
RMC.
14h-16h.
Philippe Lelouch.
Lelouch à l'affiche.
Et il est 15h06, les infos. Arnaud Valadon, le mec est complètement à l'ouest.
Et tout de suite, Brunet Neumann.
Type qui a un vrai souci de.
Non, mais il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, en fait, on était en pleine discussion sur WhatsApp. On parlait et puis on s'est fait surprendre par le générique. Voilà.
Oui, parce qu'on est humain, voilà. Alors, en fait. Hein,
parce qu'on est, tout simplement pas des
machines.
Derrière la radio, il y a des êtres humains.
Et je ne suis pas un numéro de cette série.
Bah oui, prisonnier, aussi,
le prisonnier.
Ouais. Oh non, arrête, c'est horrible.
C'est passé.
Il est con.
Mort en direct, Philippe Lelouch en toussant sur RMC. Quelle horreur.
Mais c'est horrible.
Alors, les enfants, on est en train de parler de l'enfance et du plaisir des jeux d'enfants, de l'insouciance de l'enfance. Vous êtes très nombreux à nous appeler et nous envoyer des messages au 32-16, mon Thibault.
Eh oui, exactement. Pendant le confinement, on a fait beaucoup de choses. On a réfléchi, on a lu. On a fait aussi, on a regardé nos vieux albums photos, on s'est plongé dans le passé, on se souvient de l'insouciance de notre enfance. Racontez-nous tout ça, vos anecdotes, vos moments heureux, vos moments joyeux. Appelez-nous au 32-16. Et puis on réagit également sur Direct Studio pour vous qui pouvez aussi nous expliquer vos prénoms pendant que Philippe Lelouch s'étouffe. Vous nous expliquez vos prénoms, par exemple.
Arrête, Philippe.
Mais oh, on a quoi de rire.
Un autre Mathieu, on avait Mathieu tout à l'heure, et bien là il y a un Mathieu qui nous explique qu'il a une sœur qui s'appelle Mathilde. Donc voilà, les parents ont décidé de faire
Mathilde.
La même chose.
C'est ça,
Mathieu,
c'est ça.
Mathilde.
C'est ce que j'avais dit, Mathieu. Des fois, hein, t'as vu, j'ai l'instinct hein, comme ça. Oui. Donc n'hésitez pas, il y a Greg qui est avec nous. Salut Greg.
Oui, salut l'équipe, comment allez-vous?
Salut Greg.
Mais on va très très bien. Est-ce que toi tu te portes bien et les tiens aussi?
Oh bah super bien, il n'y a pas de souci.
Ah bah tant mieux.
Ah oui, dis donc, on entend les petits oiseaux derrière toi.
Ah ouais, à ce point-là?
J'ai l'impression.
Ou alors c'est quelqu'un qui siffle, qui est derrière toi.
Ou alors je deviens fou.
Moi, je
c'est comme dans
véhicule,
les dessins animés.
Il y a pas d'oiseau dans mon véhicule.
Ah bon. Alors, bon bah donc je deviens dingue. Vous savez, comme dans les dessins animés, quand les mecs ont pris un coup, il y avait des petits oiseaux dans la bulle.
C'est ça.
Tu vois? Ça doit être ça. Ok. Ah non, c'est chez moi les oiseaux.
Mais c'est honteux, c'est horrible. Ah non, c'est chez moi les oiseaux.
Et non, tout à l'heure, le cocktail. J'arrive, Mathilda, Jenna et Jennifer.
Et la piscine est chauffée à combien, Philippe?
38.
38. La température du corps, c'est 37,2.
Il faut que quand on rentre, il n'y ait aucune différence.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est normal. Et de champagne, parce que quand on boit la tasse, c'est quand même plus agréable.
N'importe quoi. Du champagne à 37,2. Excuse-nous, Greg. On est.
Il n'y a pas de souci.
Alors, Greg, raconte-nous. Toi, alors, tiens, puisqu'on est dans c'est la question du jour, pourquoi tes parents t'ont appelé Greg? Est-ce que tu le sais?
Bah ça, c'est une très très bonne question. Je n'ai jamais su, donc je ne pourrais pas te le dire.
Mais c'est Greg ou Grégory ou Grégoire?
Ouais, c'est Grégory.
D'accord.
Grégory, voilà.
Mais bon, je ne pourrais pas te dire pourquoi ils ont choisi ce nom-là. Ouais, j'en sais rien.
Ça n'a pas de rapport avec la Vologne, hein, j'imagine.
Non, c'est peut-être Greg Lemon ou Grégory Peck de l'époque, j'en sais rien.
Ah oui, Grégory Peck, c'est vrai.
Voilà.
Bon, c'est vrai.
Pas plus que ça.
Tant pis, on ne saura pas, Grégory, mais voilà une bonne question à poser à tes parents. Et alors, vas-y, parle-nous, toi, de ton enfance. Quel est le souvenir qui t'a marqué?
Moi, le souvenir de mon enfance, c'était quand j'allais aux vendanges dans les vignes de mon oncle et que j'étais sur ses genoux en train de conduire le tracteur avec toutes ces odeurs de raisins écrasés dans la remorque à l'arrière et tout. Enfin, c'était extraordinaire. Moi, je passais chaque année trois semaines sur le tracteur à faire semblant de conduire, mais pour moi, c'était vraiment le truc d'insouciance. C'était génial, quoi.
Mais cela dit, oui, bien sûr, t'as l'impression que c'est toi qui mène le tracteur. Cela dit, moi qui ai passé beaucoup mes vacances d'enfance en Bretagne, je me souviens que j'avais 11 ans. Ouais, je devais avoir 11 ans, 10 ans, 11 ans. Et le fils des fermiers qui s'appelle Yannick, on est en Bretagne, il avait 9 ans et il conduisait le tracteur. Mais vraiment, hop. Et c'est-à-dire que là, il n'y avait pas de, tu vois, la sécurité routière, elle entend ça, elle se prend.
Les pieds touchaient les pédales.
Oui, il conduisait quasiment debout, mais il conduisait le tracteur. Et le père en avait besoin. Il avait besoin que le fils tienne le tracteur pendant que lui, il faisait des trucs. Et ça m'épatait, quoi. Je me disais, waouh, il a trop de la chance.
Ah bah, les années 70, c'était en détente.
C'était
à peu près ça. Hein, moi, dans les rangées, en gros, le tracteur, vu qu'il fallait aller tout droit, il le mettait en vitesse 1. Et en fait, moi, j'allais tout droit. En gros, j'étais sur le tracteur tout seul.
Génial.
Ouais, c'est ça.
La liberté, quoi. Ouais, ouais.
C'est exactement. Et puis eux, derrière, en train d'en chier, en train de mettre le raisin dans la remorque et tout. Enfin, voilà, quoi.
Imagine. Bah, moi, je... à 11 ans, j'ai fait les. Comme j'étais amoureux de la petite fermière, de toute façon, il avait compris qu'il avait deux bras en plus, hein, le fermier. Il était malin, comme moi. Donc, je les suivais toute la journée. Il m'a fait faire les moissons. Les moissons.
Ouais.
Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? La paille.
Oh
il n'y a rien de plus dur que toute la journée dans la paille. Et il faisait hyper chaud. Et il buvait du cidre. Hein. C'était pas. Tu vois, avec du cidre.
Ouais, c'est ça.
Donc, je te dis pas, les mômes, ils étaient cuits en fin de journée. La chaleur, plus le cidre. Ah bah, tu rentres, t'es pas bon pain.
Ah bah oui, ouais. Tu m'étonnes.
Ah bah en fin de journée, tu dormais bien, hein, ça
ah
c'est bah sûr. Ça,
oui. Ah oui, là, t'avais pas de soucis.
Voilà,
là, t'avais pas envie de jouer à la PlayStation. Et oui, Greg, et c'était où, dans quelle région, les vendanges, j'imagine, dans le Bordelais, dans ce coin-là, en Bourgogne?
Ah non, pas du tout, j'étais dans le Languedoc, à côté de Sète.
Ah oui,
d'accord.
Alors quel vin il y a là-bas?
C'était les vins des pays des Côtes de l'Amour.
Ah
et l'amour, non, tout accroché, hein, c'est pas l'amour de l'amour.
Oui, mais l'amour quand même.
Quel beau titre.
Bah oui.
Ouais, ouais, voilà. Donc on faisait ça, on allait à la coopérative, on déposait le vin. Il y avait ces odeurs de raisins écrasés, de. Enfin, c'était. Non, franchement, c'est magnifique. Rien que d'y penser, là, ça me ramène à mes 7 ans, quoi.
Et puis en plus, on se sent protégé quand on est dans les bras de son oncle ou sur les genoux de son oncle ou de sa tante, etc. Il y a cette espèce d'effectivement d'insouciance, d'être à la fois grand, mais d'avoir la protection des adultes. C'est bah évidemment, c'est merveilleux. C'est une période merveilleuse. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
À part Thibault, ça fait un peu des transmissions. Ça permet de transmettre un peu les choses.
Ouais.
Et toi, t'es dans quel coin? Tu vis dans quel coin, toi?
Ah bah maintenant, je suis en Haute-Savoie, moi. Je suis à Annecy.
Ah bah c'est pas mal, non plus. Bien. Et qu'est-ce que tu fais, Annecy?
Bah, je suis livreur de médicaments, je vous ai déjà eu la semaine dernière. Enfin, voilà.
Ah oui, d'accord. Ah génial. Voilà.
Je vous écoute tous les jours, j'envoie des petits messages.
Ok, merci. Fois.
Vous rappelez de temps en temps, j'adore ça.
Bon, bah,
vive
c'est
la
cool.
famille.
T'as bien raison, et on est la tienne. Et on t'embrasse très fort, mon Greg, merci d'avoir
Greg,
rappelé dans l'émission.
Et ben, moi, je vous embrasse très fort évidemment. Aussi, et je vous dis à bientôt.
À bientôt.
À très vite, salut. C'est vrai que ça ressemble, ça sent bon. L'enfance, quoi, tout ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est lié aux vacances d'été, beaucoup, quand on est môme.
Souvent, oui, Thibaut.
Il y a un truc aussi qui rappelle beaucoup l'enfance, et ça sent bon, justement, c'est les cabanes. C'est Yannick qui nous en parle sur Direct Studio. La guerre des cabanes, des squats, des ballots de paille. J'ai grandi dans un village alsacien. Il a 30 ans et il a vécu cette époque de manière très légère, en toute insouciance, avec ses amourettes cachées dans sa cabane.
Ben oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait une guerre des cabanes. Ouais. C'est vrai que t'allais piquer la cabane des autres. En plus, c'est vrai. Moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais mort. Chacun avait sa cabane.
C'est des cabanes naturelles. Moi, ça me saoulait de faire des cabanes en vérité.
C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles cabane naturelle?
C'était chiant. Bah, je sais pas. Tu voyais un fourré avec un trou. Bah, c'était une cabane, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Tu les fabriquais pas, toi?
Ah non, galère.
Un peu, toi.
Tu fabriquais une cabane, Philippe Lelouch?
Ah oui, absolument, ouais.
Alors ça, je serais curieux de voir ça un jour, tu vois.
Ah bah moi j'avais une ponceuse portable.
Ça y est. Il demandait à ses potes de le faire.
Non, c'est ça.
Tu peux aller chercher le bout de bois là-bas, s'il te plaît.
Alors, et puis,
non, mais celui-là, il est pas assez grand.
Bon les gars, il est 18h là. Oh, la cabane n'est pas finie là.
Moi j'aime mettre des planches, des feuillages sur le toit, etc. pour avoir la vraie cabane, mais c'est vrai qu'on...
C'est là qu'on reconnaît les perfectionnistes, hein. Ceux qui rajoutaient les petites feuilles dessus, quoi.
Oh là là.
Ouais, les feuilles sur le toit et tout ça pour faire un vrai cabane.
Alors moi, j'étais le mec qui défonçait ces cabanes-là quand je les voyais vides, tu sais.
Mais après, ne t'étonne pas d'avoir des rôles comme tu as dans Caméra et Café.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Oui.
D'ailleurs, tu vois, il n'y a pas de miscasting là pour le coup.
Non.
Mais c'est vrai qu'il y a les cabanes, c'est un très joli message. De qui il était, Thibaut, pardon?
Yannick. C'est Yannick sur Direct Yannick. Studio. Envoyez-nous toutes vos plus belles anecdotes sur Direct Studio.
Et les amours dans la paille, dans le hangar, les premières amourettes, le premier petit bisou qui fait tant de ravages le cœur d'un enfant. Voilà, c'est souvent à l'abri comme ça, ou dans une cabane, dans un hangar, ou derrière, caché, toujours.
Ouais, c'est ça.
Avec les bonnes odeurs de la campagne.
C'est là que tu sens le manteau de l'enfance glisser doucement.
Et on a Freddy avec nous qui veut nous raconter aussi son enfance et ses meilleurs souvenirs. Freddy!
Écoute, salut,
oui, bonjour,
Freddy, comment ça va?
Salut Freddy.
Salut Freddy.
Bah, très très bien, et toi?
Ça va impeccable, je vous remercie. Super. Ah ben, je pense que ça fait à l'antenne.
Alors d'abord, avant que tu nous parles de ton enfance, est-ce que toi tu sais pourquoi tu t'appelles Freddy?
Bon, alors, pour schématiser, bon, je suis de religion juive, tout ça, donc je suis né à Constantine.
Ouais.
Tout simplement, c'était le prénom d'un rabbin qui était à l'époque à Constantine.
D'accord.
Et que mes parents, après, donc, m'ont donné ce prénom.
Freddy.
Voilà,
quel âge tu as, Freddy, pour être né à Constantine?
J'ai 58 ans.
Ah ouais, t'es la dernière génération de.
Ouais,
de né là-bas, quoi.
Ouais, ouais, je suis parti là-bas, j'avais 11 mois, 20 jours, quoi.
Ah oui, ah ouais, c'est dingue.
Ouais.
Eh bah oui.
Et
oui, 58, c'est ça, c'est 62 en fait, c'est
ouais,
ça.
Ouais. Ah, je suis en 31, donc voilà, je vais avoir 59 ans bientôt. Enfin, voilà. Bah.
Ah, c'est fou. Et oui, bah, comme mon papa aussi était de Constantine.
Ah, d'accord. Voilà. Enchanté alors.
Et bah voilà. Et alors donc à cause d'un rabbin.
Voilà, à cause d'un rabbin, tout simplement, qui s'appelait Cédric, voilà, c'est un prénom un peu. Musulman entre guillemets quoi, enfin voilà, donc c'était il s'appelait Seyfred, et voilà, ils m'ont donné le prénom de Freddy, quoi. C'est...
D'accord, ok. D'accord. Alors Freddy, toi, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Alors il est lié, j'imagine, quand t'es parti de Constantine, toi et tes parents et toi, vous êtes installés où?
À Marseille.
À Marseille, bah oui, comme beaucoup, ouais, beaucoup de l'époque. Alors attends, Freddy, tu vas nous raconter cette enfance merveilleuse, j'ai pas de doute, à Marseille. Juste après, on est obligé de marquer une courte pause.
Et
on se retrouve, on a hâte de te retrouver. A tout de suite dans le Louche à l'affiche sur RMC.
RMC jusqu'à 16h.
Le Louche à l'affiche.
RMC jusqu'à 16h.
Le Louche à l'affiche.
Et vraiment, c'est très très joyeux aujourd'hui, très joyeux et très nostalgique. On a décidé, c'est vous qui venez de nous retrouver à l'instant sur RMC, de parler de l'enfance et de l'insouciance qui est liée à cette enfance. Dans cette période, c'est vrai que nous venons de traverser, dont on sort gentiment, qui est une période très anxiogène, très beaucoup de gens se sont pensés sur les images de liberté de l'enfance, beaucoup sur les réseaux sociaux, moi à 20 ans, moi machin, et pourquoi je m'appelle comme ça. Donc aujourd'hui, on fait un petit mélange de tout ça, effectivement, parce que ça fait du bien de parler de liberté et d'insouciance, et on parle donc de l'enfance, de vos souvenirs d'enfance. Et avant de reprendre ce sujet extrêmement riche, nous avons un jeu pour lequel Delphine Benatar n'est pas tout à fait étrangère. Et avant de réécouter l'indice sonore du jour, je voudrais avoir enfin la réponse de Delphine. Delphine qui a googlisé quand même pendant à peu près une heure et quart. Alors, je ne sais pas ce qu'elle peut mettre sur Google, genre bruit de basket sur du plancher.
C'est pas vrai.
Je suis très curieux, Delphine.
Si, on t'a vu.
Non.
On t'a vu.
J'ai tourné la tête.
Non, arrête, ce soit pas de mauvaise foi. Arrête.
Regarde, même là, tu le fais. Alors, de quelle actualité s'agit-il d'après toi? Regarde, elle rit. Même avec Google, n'y arrive pas.
C'est la pratique sportive qui reprend à partir du 11 mai, qui est de nouveau permise. Mais
Parce qu'on voit que c'est pas d'elle.
Oui, c'est
on voit que c'est pas d'elle.
Elle est en train de dire, c'est honteux, mais c'est une malfaite. Tu l'as tellement
mal fait. Elle essaie de le mettre en langage parlé, mais ça marche pas.
C'est ça.
C'est horrible.
Mais si, arrête.
Alors, on va voir si James... Comment tu vas, James?
Eh bien, ça va.
Salut, James.
Salut, tous.
Et eh ben merci d'être avec nous et de jouer avec nous malgré l'indice de Delphine.
Alors on va réécouter.
Alors,
quand
t'écoute.
Même l'indice peut-être. Non. Voilà.
Oh, c'est un bruit dégueulasse.
Voilà, c'est bon. Allez, ça tue les oreilles. On t'écoute, James.
Alors si c'est ça, je remercie Delphine. Je pense que c'est les chaussures de Michael Jordan qui ont été vendues.
Donne-nous le
parce que je comprends pas le rapport avec la réponse de
Delphine. C'est combien tu nous as dit
les baskets? J'ai trouvé que c'était les baskets.
Ouais, d'accord. Okay.
Alors, ça, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille.
Je lui ai mis la puce à l'oreille. Ouais. Donc
regarde, elle est contente d'elle. Ouais. Elle est limite agressive. Vous qui ne la voyez pas,
c'est pas bien
nous,
du tout ce que tu fais.
Elle est en train de nous menacer avec ses mains et ses yeux.
Il y a des menaces qui ont été faites.
Oui, il y a des menaces.
On va voir la direction.
Tu vois le stylo là? Ça va partir à la direction. Menace en direct à l'antenne sur RMC de Delphine envers le reste de l'équipe. Ah non, elle a son petit caractère.
Ah, mais c'est insupportable.
On peut pas lui enlever. Elle est gentille, mais elle a son caractère.
C'est ça.
Bon, en tout cas, James, bravo.
Premier coup, premier shoot. Combien elles ont été vendues? Ces chaussures.
Oui, combien elles ont été vendues? En fait, voilà.
Alors, on parle de quoi, Thibaut? Comme a dit
alors,
James,
vas-y, on parle de quoi? Retrace le c'est quoi ça?
Alors, justement, voilà, ce sont des paires de chaussures, des baskets Air Jordan 1 Chicago portées par la légende des Bulls lors de sa première saison en NBA. Elles ont été vendues hier aux enchères par la maison Sotheby's, $400,000 de plus que son estimation. Elles étaient estimées à 150 000 euros. Elles sont parties à $560,000.
C'est comme si elle n'avait pas assez d'oseille.
Quand même.
Il est déjà milliardaire. Je vous conseille d'ailleurs la
belle chaussure rouge et blanche. La série,
Le documentaire sur lui, The Last Dance.
Exactement.
La première danse. Mais qui arrive. Je sais.
Qui est sur Netflix. qui est absolument à tomber. C'est un handicap. Je vous assure de faire de la radio avec l'équipe que j'ai. Il y a Thibaut qui relève un peu le niveau, mais sinon c'est un handicap. Entre l'autre qui comprend jamais les indices et le mec qui parle pas une brème d'anglais, je peux vous dire que faut vraiment que je nage à vue. Hein. Faudrait que je m'explique un jour pourquoi je travaille avec vous. Il doit y avoir une explication psychologique.
Oui, mais il y en a une. Rassure-toi, il y en a une.
On est géniaux.
Bon. Voilà ça. Eh ben, bravo cas, James, bravo en tout James, cas.
T'as gagné
bravo,
des goodies.
Premier candidat, première victoire. Bravo, t'as gagné des goodies. On t'embrasse et tu reviens jouer avec nous quand tu veux.
Ah, oui, pardon.
C'est un plaisir de vous écouter.
Eh ben, nous aussi, c'est un plaisir.
Merci, James. Merci beaucoup. Donc, bientôt. On est en train de parler dans cette émission pendant encore au moins une bonne demi-heure. On est en train de parler de l'enfance, de l'insouciance, des parfums de l'enfance. Et vous êtes très, très nombreux à nous appeler
et
à nous envoyer des messages sur Direct Studio. On vous en remercie parce que c'est toujours bon. Vous savez, Marcel Pagnol disait « On ne guérit jamais de l'enfance ». C'est beau, comme phrase. Voilà, c'est ce qu'on
ça dépend qui, je pense, quand même. Ça dépend qui.
Mais non, mais peu importe.
Mais il y a des gens qui ne guérissent pas de l'enfance.
Attends, personne. Elle est en train de lire ce qu'elle donne. Elle lit ce qu'elle dit.
Non, mais n'importe quoi. Personne ne guérit de l'enfance, selon toi. Ah ouais.
Je pense que non, ça détermine. Et pourquoi une enfance heureuse ou malheureuse?
L'enfance, ce serait une maladie, puisqu'on ne guérit pas. Non, mais c'est quoi cette histoire-là?
Moi, c'est non, mais ça y est, j'ai compris la phrase. La phrase. Je pensais à on a toujours un peu d'enfance en soi.
Non.
Mais ça ne veut pas dire ça, en fait.
Non.
Non, ça veut dire que ça laisse des marques indélébiles dans le temps et dans la vie.
Tout à fait, tout à fait.
C'est un repère.
Voilà.
Oui.
C'est un repère, comme dit Thibaut.
J'adore cette émission culturelle. J'adore ça.
Oui, c'est un mélange à la fois de divertissement et de culture.
Merci d'écouter. Cette émission culturelle.
Avec le c'est quoi ça? Alors, qui on a avec
nous? On a Freddy qui était avec nous, tu sais.
Freddy, quel idiot. Alors, Freddy, merci de ta patience. Alors, on t'écoute, quel est ton plus beau souvenir d'enfance?
Alors, moi, mon plus beau souvenir, c'était, on va dire, quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans, donc quand j'ai fait ma communion, enfin bon, je parlais avec le terme hébreu qui s'appelle bar mitzvah, quoi.
Bah oui, oui, oui.
Voilà, et donc c'était une coutume, je ne pourrais pas vous dire quelle était la signification de cette coutume, je pense grosso modo, c'est à cet âge-là, on devenait, entre guillemets, un homme, enfin bref, et nos parents nous autorisaient ce jour-là, la personne qui faisait la communion et les petits cousins de cet âge-là, bon, c'est une coutume peut-être un peu con, vous me direz, mais nos parents nous ont donné l'autorisation de fumer.
Ah oui.
Bon, c'est complètement con, vous me direz
maintenant. Mon père m'a parlé de ça.
Voilà.
T'étais un homme.
Voilà.
À 16 ans, tu devais un homme.
Et bon, religieusement, on devenait un homme.
Ans,
voilà.
Parce que c'est
et donc, nos parents, ce jour-là, nous autorisaient à fumer. Et on attendait tous ce jour-là, avec impatience, de pouvoir fumer. Et le communion, aussi, entre parenthèses, donc ce jour-là, il offrait le cinéma à ses cousins.
Ouais.
Donc, c'est une coutume. Enfin, bon, c'était nous.
Oui. Nous, on avait vu. Genre, t'es indépendant, t'as de l'argent.
Voilà, donc, c'était un homme. Comme ça. Donc, on était comme des fous. Donc, bon, en plus, bon, c'est vrai que nous, personnellement, les communions de mon époque, je me rappelle un peu comme c'était hier, parce que c'était vraiment la fête des enfants. Alors que maintenant, je trouve que c'est plutôt la fête des parents, entre guillemets. Je dirais pas que c'est Coco, le film avec Gad Elmaleh, mais bon, c'est.
Est-ce que tu sais, Freddy, quelle est la différence entre une communion catholique et une bar mitzvah, c'est-à-dire une communion juive?
Non.
130 000 euros.
Ah, oui, voilà. Donc voilà, en plus, donc, c'est vrai, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc c'était nos mères, les tantes qui faisaient à manger, tout comme ça, donc on faisait une petite salle, enfin bref. Et c'était, pour nous, enfin, c'était la méga fête. On avait droit, entre parenthèses, les cadeaux qu'on recevait, je ne dis pas, on avait tous 475 trousses de voyage.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est vrai que maintenant, bon, c'est vrai, quand j'ai fait la barrière de mes enfants, bon, c'est vrai que c'était aussi ma fête, hein, loin de là. C'est... Mais j'ai peut-être plus l'impression que peut-être mon enfant, donc, il aura un souvenir, mais bon, il sera peut-être plus trop, plus ou moins, enfin, ma génération de mes frères, cousins, comme ça, on se rappelle encore de cette époque-là, parce que, comme on dit, ça coûtait 3 francs 6 sous, mais il y avait quelque chose, donc voilà.
C'était un joyeux bordel.
Non, mais c'est vrai que c'est un souvenir. Alors, c'est vrai que de considérer, et c'est encore le cas, hein, dans la religion juive, qu'à 13 ans, on est un homme, puisqu'on fait ça par mitzvah, c'est vrai qu'à l'époque, à 13 ans, t'étais, en fait, il y a une vraie explication, c'est que t'es en âge de prendre la décision, c'est pour ça que tu confirmes, mais comme dans la religion catholique, ta croyance à toi, pas celle que t'ont donné tes parents, tu confirmes ta croyance à toi en Dieu, et ce jour-là, tu deviens un homme. Mais c'est vrai qu'à 13 ans, parfois on l'est. Moi, à 13 ans, j'avais déjà envahi les Baltiques, hein. J'étais à la tête d'une armée.
Il a inventé une langue, Philippe Lelouch aussi.
Voilà. Merci Freddy.
Je vous remercie. Je vous souhaite une super belle journée.
Merci de ton témoignage.
Merci à toi aussi et merci pour ce voyage, Freddy. On t'embrasse très fort.
Alors aujourd'hui,
une langue. Pourquoi tu as dit j'ai inventé une langue?
T'as inventé la mitonne. Dans la mitonne. Ben oui, la mitonne.
Oui, Philippe, tu allais dire.
Non, je disais simplement que oui, effectivement, une bar mitzvah dans les années 70 et bien avant, effectivement. Pour la symbolique on donnait une cigarette à un enfant. Ne croyez pas, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que encore aujourd'hui on fait ça. Hein, c'est des traditions qui se font plus du tout. Hein. On donne pas une cigarette à un enfant de 13 ans quand on fait sa bar mitzvah. Voilà, c'était juste pour
Gérard Darmon, qui est un peu le cinquième animateur de cette émission, vient de m'envoyer une citation de Saint-Exupéry qui est très jolie. Alors, on est dans son enfance comme on est dans un pays.
Oui, c'est très juste. C'est très juste. Oui.
Voilà. Ben oui. Bah oui, c'est mais, tu ne veux pas dire le contraire, c'est Saint-Exupéry.
Oui, et puis c'est Darmon, quoi.
C'est-à-dire que quand tu es en tournée de Darmon et de Saint-Exupéry, il faut avoir des couilles, hein, pour dire c'est de la merde.
Ouais, c'est ça. C'est à chier, vraiment. C'est à chier,
n'importe
ce que je veux dire là.
Quoi, alors, ça, c'est... D'ailleurs, tiens, je lui fais un compliment à Gérard Darmon. Je sais, il y avait un producteur de télévision hier qui me disait, ça y est, il est rentré dans le domaine des acteurs cultes.
Ah ouais?
Darmon est culte. C'est marrant, ça. Ça fait plaisir, moi, quand on parle comme ça de mes copains. Ouais, mais c'est vrai, on est d'accord.
On est d'accord, carrément.
C'est surtout que je veux qu'il soit culte et qu'on le voit encore plein de fois sur les écrans et au théâtre. Hein.
Mais grave. Je crois que c'est bien parti. Hein. Il n'arrête pas de tourner, il est riche.
Je l'ai vu l'autre fois, je suis passé.
Alors, en revanche, il ne déclare pas tout.
Oui, puis alors, tu sais ce qu'il... Des fois, je l'ai vu l'autre fois, je suis passé en bas de chez lui, jetait de l'argent par les fenêtres, comme ça. Il était là. Allez, j'offre. Ça, il est bien, il est classe.
Hein. Il m'a dit, t'as complètement merdé la citation, recommence là. C'est vrai que je l'ai complètement merdé. Ouais.
Je l'ai pas compris, forcément, parce que j'ai dit n'importe quoi.
On est de son enfance comme on est d'un pays. J'ai bien compris.
On va appeler Bernard Pinault, si vous voulez.
Google, n'empêche que j'ai peut-être merdé la citation, Gérard Darmon, mais moi, je paye mes impôts. Bon, on est en train de parler de l'enfance et de ce qui est relié.
Moi, je paye mes impôts, monsieur Darmon. Voilà.
On se retrouve après une courte pause pour parler de l'enfance. Je vous embrasse.
RMC jusqu'à 16h.
Lelouch à l'affiche.
RMC jusqu'à 16h.
Lelouch à l'affiche.
Ah, il y avait longtemps que tu l'avais pas
oublié, c'est vrai. Ouais.
Merci d'être avec nous sur RMC. Si vous venez de nous retrouver, il est 15h32 maintenant. Ouais. Et on est en train de parler de l'enfance et des bons souvenirs qui s'y attachent avec cette magnifique citation de Saint-Exupéry relayée par Gérard Darmon, que je ne citerai plus hein, parce que je l'ai vautré deux fois. On est de l'enfance comme on est d'un pays.
Voilà.
Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et on est en train, voilà, parce qu'en cette période où effectivement on a été confiné, où on a manqué de liberté, surtout d'insouciance, c'est très très bon de se souvenir de l'enfance, période où l'insouciance et la liberté est une seconde nature. Il n'y a même pas de question à se poser.
Exactement.
Même Thibault, à un moment, était libre. Même Thibault, qui est aujourd'hui très sérieux, qui est journaliste, qui a sa carte de presse, il a été un enfant, Thibault.
Eh oui. J'ai été un enfant comme beaucoup qui nous écrivent actuellement sur Direct Studio. Et beaucoup nous parlent, notamment Philippe, du goûter. Vous savez, quand on rentrait de l'école, goûter, c'est le meilleur moment. Et beaucoup nous parlent de ce retour de l'école où on s'arrêtait à la boulangerie. Moi, je me rappelle exactement la boulangerie à côté de l'école, le petit pain au chocolat. Quand ma mère prenait, je ne sais pas si vous avez goûté ça, c'est du pain avec du beurre et du chocolat dessus.
C'était le meilleur goûter du monde.
Oui, voilà,
et quand en plus c'était de la baguette viennoise, tu te souviens?
La baguette viennoise,
c'était délicieux.
Mais j'ai l'impression qu'elle est apparue dans les années 70-80, la baguette viennoise. Je sais pas pourquoi.
Oui, c'est possible. À un moment donné, cette baguette est arrivée. Thibaut, on va voir si t'es aussi rapide que Rémi Barré. Essaye de nous trouver quand est-ce qu'est arrivée en France la baguette viennoise. La baguette viennoise, qui n'a probablement rien à voir avec Vienne, mais à mon avis, c'est ta raison. Ça doit être arrivé dans cette époque-là. Oui, c'est vrai, le goûter.
On allait s'acheter des bonbons aussi. Avec 10 centimes.
Non, on n'avait pas d'argent, nous, Delphine. Pardon.
Non, mais on avait des petites pièces. On avait des sacs de bonbons avec les petites pièces.
Mais le goûter, c'est relatif à l'enfance, en fait. Et pourtant, aujourd'hui, à notre âge, on continue certains de goûter tout ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'élément qui nous rappelle le plus notre enfance et que certains continuent à faire.
C'est un sens, le manger. Mais au même titre que j'ai adoré, évidemment, Mistral gagnant pour toutes les raisons poétiques qu'on connaît de Renaud, Mais ce qui me touchait le plus, parce que je l'ai connu, c'est le vrai roudoudou qui nous coupait les lèvres et qui manquait les dents. C'est tellement juste ça, ce truc qu'on mettait dans la bouche tout entier pour le sucer, parce qu'on le faisait pas comme ça avec la langue. Au début, puis après on le mettait dans la bouche pour le bonbon tout le temps.
Oh là là.
Et ça tenait
super
bien,
dangereux.
On coupait les lèvres. Oui, bah oui. mais c'était des. De toute façon, des bons becs dangereux, on en a eu. Hein, quand on parle du tang. Ou
la boule magique aussi, qui était énorme.
Oui.
Qui était...
Ah oui, la boule magique. Alors là.
Et je te dis, l'espèce d'os
que tu mettais dans la bouche. La langue bleue.
Oui, c'est ça. Et l'espèce d'os qui faisait.
Mais tu te rappelles, on avait fait une émission là-dessus. Vraiment,
ouais, l'année prochaine, on avait quelqu'un qui nous avait emmené, plein tous, tous les bonbons de l'époque. On avait beaucoup, beaucoup rigolé. Donc c'est ça, c'est l'enfance. Et les souvenirs qui y sont liés. On a Camille qui est avec nous. Salut Camille.
Salut à tous.
Salut Camille.
Salut Camille.
Merci d'être avec nous. Je suis obligé d'entendre ta voix quand j'annonce Camille. C'est l'emmerdement de ces prénoms qui sont aussi bien féminins que masculins. C'est que
Philippe,
tant que j'ai pas entendu ta voix. Philippe, non, c'est Philippine.
Philippine.
Ah. Eh oui.
Ça t'est marré? Ça t'est marré, Philippine?
Camille, d'ailleurs, tiens, puisqu'on est en plein dans le sujet.
Je voulais te dire, Philippe, une première chose, c'est que je t'adore regarder. Déjà, j'aime bien t'écouter des fois quand je peux t'écouter sur Philippe.
Sur
l'émission que tu as, le Louche à l'affiche.
Ouais.
Et surtout, je t'adore quand tu es à Top Gear.
Bah,
si tu fais ton petit malheureux dès que tu ne gagnes pas, tu es extraordinaire. Je t'adore. Continue comme ça, c'est extraordinaire.
Merci. Je fais pas mon petit malheureux. Je suis le mec le plus mauvais joueur du monde. Voilà.
Eh oui,
c'est-à-dire que le pire, c'est que je le fais même pas
exprès. C'est ça qui est bon.
Je mise tout le temps sur qu'il y a des gens qui disent. Je pense Camille, qu'il y a toujours qu'il y a des gens qui vont se dire qu'est-ce qu'il est bon acteur et joue le mec qui s'énerve et tout. Mais je le suis vraiment. C'est-à-dire que à ce moment-là, je ne joue pas et j'ai honte. J'ai honte après, parce que mais j'aime pas perdre. Voilà, c'est un truc de.
Je connais pas beaucoup de personnes qui aiment perdre.
Si, t'en as qui s'en foutent. Je sais pas pourquoi ils jouent, moi. Parce que quand tu joues et que t'aimes perdre, tu t'en fous.
Aujourd'hui, je m'en fous.
C'est chiant de jouer avec des bons joueurs. Moi, j'aime bien jouer avec des mauvais joueurs. Avec des bons joueurs, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, ceux qui te disent que tu t'es là, bah, ça va, c'est qu'un jeu. Cette phrase sur laquelle tu peux rien répondre.
Ça va, c'est qu'un jeu, t'as un café?
Non! Arrête! Alors, mon Camille, puisqu'on est dans le sujet du jour, est-ce que tu sais pourquoi tes parents t'ont appelé comme ça?
Ben, il y a une seule et unique raison. Mon arrière-grand-père, héros de la Première Guerre mondiale, s'appelait Camille. Et mon père, son deuxième prénom, c'est Camille. Et le premier qu'il voulait, il s'appelait Camille. Donc, je suis arrivé, je m'appelais Camille. Alors, voilà.
Quand tu dis héros, c'est-à-dire que ton grand-père a fait la guerre des tranchées.
Ben, en fait, c'est simple. Mon grand-père était chasseur alpin.
D'accord.
Il était notamment sur Grenoble. Alors l'histoire, mon père te la raconterait mieux que moi, parce que moi, malheureusement, je connais que certains trucs. En 1916, il me semble qu'il a été fait prisonnier et libéré en 1920. Parce que tu sais que la guerre ne s'est pas arrêtée en 1918. Hein. La guerre s'est arrêtée en 1918 sur le territoire français, mais pas sur l'ensemble de l'Europe.
Mm-hmm.
Il a été libéré en
1920. C'est-à-dire deux ans après.
Il a fini avec la croix quand même, la croix française.
La grande croix de guerre. Et est-ce que ta grand-mère était vivante? Oui, bien sûr, elle l'attendait. Donc est-ce qu'elle savait qu'il allait revenir? Elle avait des nouvelles de lui?
Il allait revenir. Et puis il avait connu, c'était au moment où il partait à la guerre, parce qu'elle était d'origine italienne, elle arrivait d'Italie. Elle avait encore son accent italien, elle parlait italien. Voilà, donc ça a été le coup de foudre entre les deux, c'est resté entre les deux.
D'accord, c'est beau.
Non, parce que tu sais, des fois, entre 1918 et 1920, il y a tout un film, il y a eu plein de films de fait là-dessus. En 1918, elle ne voit pas son mari revenir, elle pense qu'il est mort, elle se remarie, et en 1920, arrive le mari qui dit « Mais tu étais ma femme, mais je savais, je croyais que tu étais mort, etc. » Enfin, il y a eu des histoires comme ça, terribles. Des types qui portaient disparus. À l'époque, il n'y avait pas le portable. Hein.
Non. Et puis, aujourd'hui, des petites.
Ça y est, je suis perdu. Ça y est. Mais non, mais t'as des petits. Comment t'étais? Ah bon, non, laisse tomber. Merci, Philippe. Ouais, vraiment, c'était un moment fort de radio. On va le mettre. S'il y a une bande-annonce à faire pour les bouches à l'affiche, on va. Il faut prendre ce moment-là. Vraiment, je le dis à ceux qui préparent les bandes-annonces. Prenez ce moment-là. Ça fait venir.
Si,
c'est vendeur. C'est vendeur.
Arrête.
C'est magnifique. C'est sorti tout seul en plus. C'était naturel.
Bah oui. Cette espèce de logorée comme
mais
ça.
Oui, et puis tu sais, c'est insupportable parce que tu sais que t'es écouté par des centaines de milliers d'auditeurs, de gens. On nous écoute et là, d'un coup, tu cherches le mot, tu l'as pas et tu fais, c'est pas grave, il va arriver. Non, il arrive pas.
Non, il ne viendra pas.
Je suis écœuré.
Il ne viendra pas.
J'ai même plus envie de parler de ça.
Alors, Camille, maintenant qu'on a eu l'historique et de ton prénom et de ta famille. Parle-nous de ton souvenir d'enfance, le souvenir d'enfance, si tant est qu'il y en
ait. Alors, ouais, j'en ai deux, en fait. J'en ai un paquet, mais j'en ai deux vraiment qui me restent souvent. C'est que déjà, quand j'ai commencé à faire le collège avec mon meilleur pote, on habitait le même lotissement. Donc, moi, j'habitais en haut lotissement, lui habitait en bas. Et le mardi, bah, généralement, on faisait les devoirs ensemble. On descendait et en plein milieu, tu avais un gars, il est toujours vivant, hein, toujours vivant, je crois qu'il a 80 et quelques ans. Mais voilà, il nous avait envoyé chier deux, trois fois et tous les jours, tous les mardis qu'on passait, on sonnait à sa sonnette et on partait en courant. Ça nous faisait marrer, bah oui. Ça nous faisait chier, mais nous, ça nous faisait.
Bah,
un
oui,
jour, il ouvre le portail, il nous attendait avec le fusil.
Oh,
c'était fini, ce jour-là, on a arrêté.
Le mec qui a un gros sens de l'humour. Ouais, c'est ça. Un fusil sur des gosses.
Mais tu sais que moi, je me faisais tirer dessus, moi, à la carabine, hein.
Ouais. Non.
Ouais, ouais. On l'appelait le sergent Garcia quand on dans la cité. Il y avait de l'herbe, un terrain d'herbe, et quand on jouait au football, ça plaisait pas au sergent, et il nous tirait au gros sel. C'est-à-dire qu'il y a des. Moi, j'ai jamais été touché, mais j'ai des potes qui avaient du sel dans le cul, quoi.
Ça fait mal. Je te jure. Et ça te garde. Tu gardes la cicatrice pendant une semaine.
Voilà. Et il y a personne. Et à l'époque, personne n'appelait les flics. Hein. C'était. Bah oui, mais faut pas jouer là-bas. On vous l'a dit. Voilà. Il est fou. Il est fou, le mec avec son fusil. Et puis ça s'arrêtait là.
Tu te rends compte, un mec qui fait ça aujourd'hui, il va au ballon direct.
Et puis il passe aux 20h surtout.
C'est-à-dire que... il tire sur des gosses qui. Mais cette fameuse connerie de la pelouse interdite, j'ai jamais compris ce truc-là. À quoi ça sert la pelouse si c'est interdit? C'est
non, mais voilà, c'est insupportable.
Voilà. Il y avait toujours, moi aussi, j'avais un gardien comme ça, là où j'ai grandi, à Clairvillage, qui est à Savigny-sur-Orge, je crois, qui était farci avec ça. Il nous surveillait la jumelle. À partir du moment où tu surveilles des gosses avec des jumelles, tu te doutes bien qu'il faut que tu t'attendes à ce que les mômes réagissent.
Est-ce que tu le vois, évidemment, le mec aller acheter sa paire de jumelles au magasin? Bonjour.
Ah, mais il avait tout de la panoplie du.
Je lui ai acheté une paire de jumelles. Pourquoi, monsieur? Oui, je surveille.
Je
surveille des enfants.
Alors, donc, quand on est dans le champ, le mec se met à la fenêtre de chez lui et nous regardait pour savoir ce qu'on faisait.
Ouais.
Alors, regardez, j'ai la carte de membre, c'est bon.
Et qui c'était, surtout? Mais j'imagine qu'il devait noter. Bah, ça, c'est le fils Lelouch, ça, c'est machin.
Ah, bah, il savait très bien qui on était. Tu penses bien. Il savait très bien. C'était un village. Et donc c'était ça. On lui a bien rendu. Parce que. Évidemment, quand tu te comportes comme ça avec les gosses, ils te lâchent plus. Ils viennent te faire chier.
Et
comme j'étais pas déjà entêté à l'époque. C'est tellement bon. Et en même temps, de se faire courser quand t'es enfant. Oui. C'est tellement bon.
Et mon deuxième souvenir, c'est quand j'étais minot, on passait souvent nos vacances parce que mes parents étaient ouvriers. On avait un terrain par mon grand-père dans les Alpes. Dans les Alpes, je dis au-dessus du Citeron. Tous les étés, on y allait, et ce terrain était entretenu par mon oncle qui était paysan. Donc, on passait les étés où à aller faire la paille, où on était dans le tracteur, c'était rigolo, quoi. Et il y avait un verger à côté de pommes, avec mon frère, on partait, et je te parle de ça des années 90, hein, on partait et on piquait des petites pommes ou des cerises. Et un jour, il nous a chopé, il nous a tiré dessus au gros sel.
Ah bah, tu vois, voilà.
Tu l'avais vu.
8 ou 9 ans, mon frère, il avait 6 ans. Un fossé de 2 mètres, tu le sautes. Quand t'as le mec qui est sur le un fossé de 2 mètres, tu le sautes, je te jure. Gros sel dans les tibias, c'est surtout dans la moulée, parce qu'il nous avait tiré au dos, ça fait mal, ça fait très mal.
Ah bah oui.
Mais c'est des bons souvenirs, voilà, j'ai gardé ces souvenirs comme magnifiques, quoi.
Ben oui, quand on est ce qu'on appelle des sirops de la rue ou sirops de la campagne, quand on est des gosses et qu'on jouait dehors. J'espère que les enfants, mais il y en a, c'est plus compliqué aujourd'hui. Hein. Je vois
plus
masse d'enfants qui jouent dehors. Ouais, c'est vrai. Donc, même à la campagne, on en voit moins. Tu sais, les enfants regroupés qui se baladent en bande et tout ça, en vélo, tout ça,
on faisait des bandes à part avec des minots et après on les renvoyait plus jamais.
Hein. Ben oui, bien sûr.
Parce que c'était pour les vacances, c'était comme ça et. Maintenant, je sais même pas si ça c'est encore ou si moi je vois même.
Bah, j'espère pour eux.
Je vois vite que c'est, mais c'est plus que c'est plus le même. J'ai l'impression que c'est devenu des copains aseptisés, quoi.
Mais ça a changé. C'est plus le même.
Il y a d'autres sources de rencontres, les réseaux sociaux, les jeux vidéo.
Voilà, etc.
C'est plus compliqué. Merci Camille d'avoir été avec nous. Merci de partager ce beau souvenir.
Un petit dernier point. La Sainte Camille est fêtée le 14 juillet.
Ah, donc fête nationale, fête nat.
Voilà. Donc c'était juste
exactement
pour
comme on en parlait tout à l'heure.
Voilà, j'en ai entendu parler, c'est pour ça que je te l'ai dit.
Ok. Bah, merci pour le point.
Merci Camille, merci, on t'embrasse vous. Très fort. Merci d'avoir appelé, d'avoir partagé ça avec nous. À très vite. On a encore un petit quart d'heure après pour se parler. C'est très réjouissant pour nous. J'espère que pour vous aussi, d'entendre parler de votre enfance. À tout de suite dans le Louche à l'affiche sur RMC.
RMC jusqu'à 16h.
Le Louche à l'affiche.
RMC jusqu'à 16h.
Le Louche à l'affiche.
Et encore pendant un quart d'heure, c'était vraiment, je l'ai, alors pour le coup, je l'ai pas vu passer cette émission, hein, ouais. Vraiment. C'est parce qu'on parle de l'enfance et qu'on en a tous eu une et qu'on a tous à peu près, c'est marrant, à peu près les mêmes souvenirs quand on
les mêmes références, ouais, les mêmes bonheurs.
Ce qui rapporte à une phrase d'un immense sociologue qui disait, c'est la culture commune qui fait les âmes communes. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on est si français, c'est qu'on a tous eu presque, en fonction de la génération dans laquelle on a grandi, la même enfance. Et pourvu que ça dure, parce que c'est toujours un moment extraordinaire de parler de l'enfance. Alors tout à l'heure, on a posé une question extrêmement compliquée. Hein, on l'a mis au défi pour sa première avec nous pendant les vacances de Rémy Barré. On a demandé à Thibaut Texière de nous trouver l'origine de la baguette viennoise. Vous savez, cette baguette qui est si brioché et qu'on avait à 4 heures. Enfin, moi, je me souviens que ma mère, c'était les jours de fête presque. On avait la baguette viennoise avec du beurre et du chocolat. Alors, c'est apparu quand en France, la baguette viennoise?
Eh bien, ça va vous surprendre, mais c'est arrivé avant la baguette. C'est arrivé en 1830. Et c'est un boulanger viennois, Auguste Zang, qui a fondé à Paris la boulangerie viennoise pour justement ne pas payer la taxe. À l'époque, il y avait une taxe sur le pain, la boule française, la boule de pain. Et du coup, il en a eu marre. Du coup, il a créé la baguette viennoise. Et la baguette telle qu'on la connaît aujourd'hui, la nôtre, quoi, la baguette française, elle date de 1920.
Ah oui, d'accord. Tu te rends compte? Alors que lui, il pensait que la baguette viennoise cura, ça datait de 1970.
Non, juste 100 ans mais après. Attends, j'ai pas dit. Non.
150.
Ne commence pas avec ton petit rire sournois, Philippe Lelouch. Peut-être que oui, effectivement, elle est de 1894.
1830. Ah
oui, elle est de 1830. 1870, c'est ça
alors,
que tu vas nous dire.
Alors, peut-être que Thibaut a raison. Elle est peut-être de 1830.
Henri IV, il en mangeait déjà avec la poulopo.
Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la tradition s'est perdue et qu'elle est fortement revenue dans les années 70.
Non, je pense que tu as raison, Philippe.
Non, pas du tout, parce que Jules César, il en mangeait déjà, il disait ouh, dis donc, des jeux, du pain.
D'accord. Non, mais il a envie que je dise de la merde, donc il va me dire non à tout là. Non, Philippe, tu te trompes. Non, cura, c'est pas bon. Voilà. Donc, je sais.
Allez, on parle de l'enfance et on revient à nos moutons.
Et il paraît.
Pour encore quelques quarts d'heure. Oui, et souvenirs qui sont liés à cette enfance. Et on a Frédéric qui est avec nous. Ouais. Salut, Frédéric.
Oui, bonjour.
Salut Frédéric.
Bonjour, merci d'être avec nous dans le Louche à l'affiche sur RMC. Alors, quel est ton souvenir d'enfance, toi, Frédéric?
En fait, par hasard, j'ai pris l'émission en route parce que j'ai travaillé tard, puis j'allume la radio, puis j'entends Philippe raconter son histoire de feu l'espèce de prairie là qui a
terrain vague.
Terrain vague, voilà. Et après, j'entends sa vie sur Orge. C'est pas possible. En fait, je le connais, mais je savais pas que c'était toi. Les Philippe Lelouch, bon, acteur, je connais, mais j'avais pas fait le rapprochement avec Philippe Lelouch que je connaissais de mon enfance.
Ah, d'accord.
Incroyable d'enfance.
Et cette histoire de feu, je m'en souviens très bien, puisqu'on s'est posé la question, mais qui a foutu le feu? Maintenant, on sait.
C'est les Lelouch. Il y a prescription. Il y a 40 ans. Ça va, je ne veux pas t'emmerder.
Et en fait, l'anecdote qui m'est revenue, après je me suis dit, bon, je ne vais pas appeler pour ça, mais en fait, quand tu as raconté après l'histoire de sonner aux portes, partir en courant, etc., je ne sais pas si tu te souviens, mais j'allais souvent chez un pote à côté de cette prairie qui a brûlé, justement, là, rue Jean Racine, je ne sais pas si tu te souviens du nom de la rue.
Très bien, on est voilà. Complètement... Ouais.
On était un peu cons à l'époque, hein, faut dire. On jouait au ping-pong dans cette maison avec des gants de boxe.
N'importe quoi.
C'est bien des idées de môme.
Et en fait, toi, t'avais tapé avec un copain, t'avais tapé à notre carreau et tu te barrais en courant. T'avais fait ça 2-3 fois. Le pote qui habitait la maison, là, justement, il est sorti avec une batte de baseball à un moment donné. Et là, tu t'es pointé, t'as paniqué, t'as dit mais non, c'est moi, c'est Philippe Lelouch, c'est moi. Et on t'a reconnu. Mais en fait, c'est vraiment cette anecdote, l'anecdote du petit con, quoi, en fait.
Et
alors, on vient d'apprendre.
Ouais, les petits cons qui finissent par donner des grands cons.
Et on vient d'apprendre que Philippe Lelouch. Attends, on vient d'apprendre que Philippe Lelouch parlait comme ça quand il était petit. Non, mais c'est moi, Philippe Lelouch. Écoutez les copains, vous voulez une place, si vous la cherchez.
Je sais pas si tu te souviens de ça, parce que tu avais dit, mais ce qui nous a frappé, c'est qu'on vous voyait jouer à l'intérieur avec des gants de boxe, qui était complètement absurde, hein, d'ailleurs.
Mais comment il s'appelait ton pote? D'abord, toi, ton nom de famille, c'est quoi?
je peux le dire à l'antenne, là, ou...
Bah, comme
je
pense, oui.
Ouais. Le jeune, mais on devait avoir des potes en commun. On n'était pas très proches nous, mais on se connaissait. Ouais, il y a certains Jean-Christophe.
Coucourou.
C'est ça, exactement. Et je sais que t'étais souvent avec lui. Bah moi j'habitais rue Ronsard, hein, pas loin de.
Oh, pas loin de. Parce que Cura, ouais. c'est un gars de Chilly Mazarin. Nous on est de Savigny-sur-Orge. Ouais. Bah, voilà.
Voilà, et Chilly Mazarin, c'était l'endroit où ça brûlait, c'était entre Savigny et.
Ouais, je vois très bien.
Exactement, le terrain vague.
Il y a un supermarché maintenant là-bas, un Carrefour.
Il y a carrément une. C'est un lotissement maintenant. Vraiment.
Ah, d'accord, c'est un lotissement.
Alors qu'à l'époque, c'était la campagne, vraiment.
La campagne, il y avait un cirque qui venait de temps en temps.
Exactement.
Camper là. Et nous, on jouait toujours au foot. Pour en revenir aux souvenirs d'enfance, c'est Claire Village aussi qui m'a. Voilà, donc c'était. On parlait des souvenirs de gamins. Claire Village, c'était le paradis pour les mômes. Parce que. On était seuls dans la rue. On jouait dehors, on était seuls dans la rue. Et puis, c'est là qu'on se croisait tous plus ou moins proches. Et puis,
Et tu habites où maintenant, Fred?
Moi, j'habite un peu plus loin. Je suis à Ville-d'Avray maintenant, près de Paris. J'ai toujours des potes à côté. Clairvillage, à Morangis, juste au-dessus, des parents qui sont restés là-bas. Là,
c'est marrant d'entendre ces noms de villes.
Ces noms-là, ouais.
Voilà. Et dis-moi, Frédéric, oui. Il avait quelle réputation alors, Philippe Lelouch, mais même de loin.
un peu déconneur quand même, hein, faut dire ce qu'il est. Ouais. J'étais très pote avec Jean-Christophe, notre ami commun, et Jean-Christophe était assez déconneur à l'époque, mais moi j'étais plutôt sage par rapport à eux quand même.
C'est à l'image.
Observateur.
C'est à l'image.
Voilà. Après il y avait tout le collège au-dessus, les Gâtines, tout le monde était aux Gâtines et on avait vraiment une belle bande de jeunes quoi qui se connaissaient tous, c'était assez sympa.
Et après ça allait au lycée Corot à Savigny-sur-Orge.
Ouais, évidemment. Exactement. Ça, au lycée Corot. Ouais, ouais. Voilà, exactement.
Frédéric, merci d'avoir appelé.
Qui vous écoute au téléphone et était aussi à Corot, était aussi à côté, donc c'était tout un souvenir.
Merci d'avoir appelé, Fred. Ouais. À l'occasion, oui. Croisons-nous et saluons-nous puisqu'on s'est vu petit. Merci Frédéric d'avoir appelé en tout cas. Merci à infiniment. Bientôt. Je t'embrasse très fort. À bientôt. Tu vois, hein, c'est un peu mon sacré soirée.
Ouais. C'est marrant.
C'est marrant d'avoir des gens qui se souviennent comme ça de trucs c'est quand t'étais enfant. Ouais, ouais. Grosse bêtise qu'il avait faite. Moi, j'ai envie que Thibaut, parce que Thibaut, il est très sage, c'est normal, il vient d'arriver dans l'émission, il est sage. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la plus grosse bêtise que t'as faite, toi, Thibaut, enfant.
Une grosse bêtise. Je me rappelle d'un moment où je me suis pris une sacrée rousse, d'ailleurs. J'ai défié ma mère, en fait. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis capable de vivre tout seul dans les bois. On était dans les bois. Et elle m'a dit, vas-y. Et je suis parti.
C'est bien un truc de môme, je suis capable de.
Oui, voilà, tout
c'est
seul. Ça, ouais.
Je suis parti tout seul.
Mais je me suis mis en haut d'un parking, en fait, et du coup, je voyais ma mère me chercher pendant 2 heures.
Ah oui, d'accord.
Et à un moment donné, je suis sorti au bout de 2 heures et je lui ai dit, viens me chercher.
Mais t'es un rebelle, toi.
Une grosse bêtise.
Sur Thibaut, j'ai juste une petite info. Il est possible qu'à un moment donné, dans la semaine, Thibaut disparaisse d'un coup, d'un seul.
Voilà, si vous me mettez
au défi. Parce que sa femme est à l'hôpital. Elle attend d'heureux événements, sa femme.
Elle est allée à la maternité,
Donc il est possible qu'à un moment donné, Thibaut, il parte. Voilà.
Ah bah oui, et il partira.
Hein. Ah non, on fait l'émission.
Je partirai après.
Oh, écoute, pour la naissance d'un enfant, tout est compréhensible.
Bien sûr.
On est tous passés par là. Mon petit cura, la plus grosse bêtise que t'aies faite, toi?
J'en ai pas fait beaucoup parce que moi j'étais bien encadré, mais si j'ai lancé à peu près 200-300 pommes sur une route nationale en essayant de viser les voitures.
Ah oui, truc très intelligent. Ça, c'est hyper dangereux.
Hyper dangereux, Philippe. On avait 8 ans.
Mais quand t'es môme, tu te rends pas compte.
Mais non. Bah oui, c'est ça. T'es juste content quand ça fait PAM! Je l'ai touché!
PAM! 120 morts!
Et toi, ta plus grosse bêtise, toi? C'est quoi,
Philippe? Je te l'ai dit, j'ai mis le feu. Toi, Delphine,
avant de retrouver
Moscato, qui n'a jamais fait une connerie. Jamais. Moscato, lui, je sais qu'il en a jamais fait. Delphine, toi?
Moi, j'ai fait des conneries, j'ai fait des. J'adorais ça avec ma meilleure amie Sophie. On faisait des coups de fil anonymes. On appelait des gens. Et un jour, on a appelé une dame à qui on a dit « Ma petite sœur, elle est tombée dans les escaliers !» Le truc horrible, c'était hyper glauque, je ne sais pas ce qu'il nous a pris. Et la dame était en panique totale, elle ne savait pas quoi faire. Et nous, ça, bah, nous
t'as ce côté,
parce qu'elle était en panique et que ça marchait, quoi. Voilà,
t'as ce côté vicieux tordu. Quand même, hein, c'est tordu.
Ouais, ouais, c'est très bizarre de faire ça. Mais quand t'es enfant, t'as des trucs un peu bizarres.
Mais non, t'es dans le mal-être, voilà, c'est ça.
Oui, bien sûr, voilà, c'est ça.
Merci à vous trois de m'avoir accompagné aujourd'hui pour cette émission. Je vous retrouve demain, évidemment, ouais, de 14 à 16, à comme tous les gens qui nous aiment. Mais en attendant, c'est l'heure de passer la main au grand Vincent Moscato. Comment ça va, mon Vincent ?
Mais comment ça va, Philippe ? Monsieur Cura, comment ils vont, les mecs ?
Super
ça
bien.
Va, tout le monde va bien.
Bah oui, bon, ça va.
Alors, ça bricole. Alors, Jacques-Henri Hérault, oui. On parle de l'affaire Villas-Boas, bien entendu. Résistera-t-il à la pression populaire? On en parle tout de suite. Et puis Holyfield Tyson, ça va se refaire. L'un à 54 ans, l'autre à 58 ans. Vous vous rendez compte, les gars, le combat va se faire.
Oh, mais ça va être long. Il va le faire, ils vont vraiment faire le combat.
Ah ouais, j'ai l'impression que ça va être une affaire de gros sous. Les mecs sont en forme, ils vont se mettre en forme. Et d'après moi, ça ne sera pas ridicule. Il me tarde de voir ce combat. Tout de suite dans le Super Moscato Show.